session théologique par le père Philippe à Saint-Jaudard, le 9 août 1988, conférence du soir.
Ne peut-on pas se poser la question de pourquoi un seul premier? Il y a Ève. Donc ils sont deux quand même. De fait, et sans a priori, on peut imaginer qu'il y eut plusieurs premiers en même temps. Pourquoi pas plusieurs Adam, jumeaux. Certes, la Genèse semble formelle là-dessus. Mais, alors, au plan purement philosophique, hein, c'est pas toujours un point de vue philosophique. C'est bon de purifier notre regard imaginatif, d'abord par le bulldozer métaphysique hein, qui passe et qui renvoie promener. Si, au plan philosophique, je ne peux rien dire sur le comment du premier homme, de la première femme, vous comprenez ? C'est pas la peine de se demander s'il y en a un ou plusieurs, parce qu'on ne sait pas. Le problème doit se poser après, en théologie. Vous voyez, ça, c'est très nettement une question de théologien ou de théologienne, anticipant par rapport à la philo. Mais je fais grande attention de ne pas mêler le point de vue de la méthode philosophique et la méthode théologique. Pour que vous appreniez vous-même à faire le discernement, c'est tellement important dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, nous restons d'abord en philosophie, plus très longtemps, parce qu'il est grand temps d'aller entrer en théologie. Hein. Mais c'est quand même bon. La philosophie, ça éveille notre intelligence. Donc, je ne peux rien dire sur le premier, et comment ce premier. Je peux seulement montrer que inconvenience, ça vous connaissez tous le latin suffisamment, hein. Alors, ne traduis pas trop matériellement, inconvenance, ça va pas très bien, c'est-à-dire, ce n'est pas selon la sagesse de Dieu, pour des cas de raison. On vient de m'en rappeler une tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord, je ne l'ai pas souligné, mais elle est quand même importante à souligner. La matière, normalement, bonne philosophie, le corps est ordonné à l'âme, et non pas l'âme pour le corps. Donc, s'il y avait passage de l'animal à l'homme, même un animal très parfait, l'atavisme serait purement d'animal. Il aurait des oncles, du même acabit. Il aurait des grands-pères, des arrière-grands-pères, du même acabit. Seul avantage, c'est qu'il n'y aurait rien d'écrit, et que ça resterait uniquement au niveau vital. Et donc, le premier moment de la conception, le fœtus resterait animal. Ça pose pas mal de questions, ça. Comment une âme humaine, qui serait la même que la nôtre, spécifiquement, puisque Dieu crée l'âme, il crée l'âme du premier homme, il crée votre âme. Il a hésité sans doute hein, avant d'écrire votre âme. S'est demandé si c'était bien. Et toujours, il l'a fait. Hein. Pour premier homme, il a hésité, il a pris conseil de lui-même. Et pour chacun d'entre nous, il a créé une âme. C'est la même âme, spécifiquement. Elle est diverse dès le moment où elle informe le corps. Mais notre âme est la même. C'est pour ça qu'on peut se parler, tu vois. On est de la même espèce. C'est pour ça qu'on se comprend. Cette âme n'est pas adaptée au corps d'un animal. C'est très vrai. Alors, est-ce que ce serait contradictoire au plan philosophique? C'est-à-dire complètement impossible. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? C'est-à-dire le passage d'un animal supérieur, vous voyez bien, un super singe, un super porc, n'est-ce pas? Un animal très parfait, quoi. Arrivé au point de vue de l'évolution, il touche le plafond. Et il dit, ouais, c'est pour ça qu'il faut que ça craque. Ça reste quand même un animal. C'est l'âme qui fait la nature humaine. C'est l'âme spirituelle qui informe le corps qui fait. Et il faut un corps qui puisse recevoir cette âme. Alors, est-ce que la similitude générique, vous voyez, je vais jusqu'au bout de la critique, hein, est-ce que la similitude générique ne suffit pas? Parce qu'il y a une similitude générique. Alors, on pourrait dire que la similitude générique suffit, parce que la similitude générique entre l'animal et nous, il y a même genre animal. Ah, c'est sûr. C'est pour ça qu'on peut s'amuser avec un petit chat. Avec un petit chien. On croit le comprendre. Et lui, je ne sais pas ce qu'il pense quand il nous voit. Sans doute rien. Il cherche le morceau de sucre. Et nous, nous pensons qu'il nous aime. Il fait des caresses. Un chien, quand on ne l'a pas vu depuis 15 jours, c'est, oh, regardez comme il est fidèle. Je n'en sais rien. Quel genre de fidélité? Je n'en sais rien. C'est le morceau de sucre habituel qu'il n'avait plus. C'est très possible. C'est très difficile à savoir ce qu'un animal ressent. Regardez une vache qui, regardant le TGV qui passe. La première fois. Elle a dû dire, oh, que les hommes ont fait des progrès. C'est vrai, ce qu'elle peut intérieurement, je n'en sais rien. C'est extrêmement difficile. C'est un monde fermé, vous savez, le monde animal. Alors, est-ce que la similitude générique suffit? Je ne crois pas pour l'harmonie et la convenance. Sûrement pas. Donc, je peux encore prendre le point de vue de l'argument de convenance. Si Dieu veut faire son chef-d'œuvre de l'homme et de la femme, ben, il faut qu'il y ait une harmonie parfaite. Or, l'harmonie ne serait pas parfaite. Donc, vous pouvez ajouter cet argument. Contradictoire. Au plan purement philosophique, j'oserais peut-être pas le dire. Mais, chef-d'œuvre de Dieu, quand même, ce serait un très gros coup. Donc là, la convenance difficile. Alors, encore cette petite question. Donc, vous voyez que la question du plusieurs, je dis tout simplement, philosophiquement, pas de question, parce que je ne peux pas savoir. Alors, on pourrait simplement dire, selon la sagesse de Dieu, ce serait plus normal. Alors, surtout, hein, surtout, si on parle de l'évolution. Si on parle au niveau de l'évolution, c'est impossible scientifiquement de soutenir qu'il y en ait plusieurs en même temps. Et ça, tous les savants au point de vue scientifique sont d'accord. Ça, l'évolution, passage de l'animal à l'homme pose de telles conditions que un cas dresse un argument assez fort aussi contre ça. Parce que dit, alors le couple, scientifiquement, au plan de l'évolution, ne peut pas s'expliquer. On peut dire un, pas deux. Et donc plusieurs, encore moins. C'est bon à savoir, vous voyez, parce que c'est pas pour faire l'inverse de la question d'évolution, mais c'est simplement pour voir qu'il ne s'agit pas de se laisser aller par des propagandes qui n'ont aucun fondement scientifique. Aucun. Et qui sont de pure propagande. Alors, si on veut être intelligent, on ne se laisse pas aller aux propagandes, on les critique. Et si c'était intéressant, je vous affirme, je dirais, mais ça, il y a quelque chose de très intéressant là. Et plus on avance, je vous dis, j'ai quand même étudié la question très à fond pour ce compte-rendu, parce que je voulais le faire bien pour un ami, comme je savais que je n'étais pas d'accord avec lui, il fallait le faire doublement bien pour que... Non, pas le convertir, c'est pas ça qui allait le convertir. Mais au moins lui montrer que, pour des raisons sur lesquelles on a réfléchi, on ne peut pas l'accepter. On peut imaginer que Dieu se soit donné plusieurs chances. Non, on ne peut pas imaginer ça. Dieu ne te donne pas des chances. Ça, c'est l'imagination. Vous vous donnez des chances parce que vous jouez à la chance, à roulette. Dieu n'a pas fait marcher sa roulette. Est-ce qu'on va... Hein ? Puis la petite planète, pôle nord, pôle sud, équateur, on va situer comme ça, non. Si Dieu crée, et ça philosophiquement parlant, il peut créer que selon sa sagesse. Donc le hasard n'existe pas en Dieu. Le hasard existe pour nous, à cause de la cause matérielle. Le hasard n'existe pas chez les anges. Point de vue théologique. Parce que je ne peux pas parler des anges au plan philosophique. Mais c'est la cause matérielle qui fait le hasard. Il ne peut pas y avoir de hasard en Dieu. Donc, ce que Dieu fait, il le fait selon sa sagesse. On va y revenir dans un instant. Nous avons vu articulation entre la philosophie et la théologie. Mais cette dernière suppose la foi, et donc la grâce, et l'état naturel de notre intelligence. Et l'état naturel de notre intelligence n'est-elle pas gauchi par le péché originel? Nous allons voir. Eh bien non. Ça c'est Luther. L'Église catholique a toujours maintenu que le péché ne touchait pas la capacité de notre intelligence. Le péché nous rend paresseux. Conséquence du péché originel, on est paresseux. On prend toutes les bonnes raisons pour ne pas travailler. Quand on est gosse, quand on est devenu un peu plus intelligent, un peu plus maître de la situation, c'est différent. Dès qu'on est finalisé, on travaille. Le péché a comme répercussion, c'est de nous rendre paresseux. Et la paresse nous empêche de croître dans notre intelligence. On devient intelligent. Croyez-le bien. On devient intelligent. Et ce ne sont pas les intelligences les plus précoces qui donnent les meilleurs fruits. Les super doués, c'est plutôt gênant. Parce qu'à un certain moment, très curieux, je connais des gens qui s'occupent des super doués. C'est un petit peu comme dans la nature, vous savez, des printemps hâtifs. C'est merveilleux. Ah, il y a des fleurs très très vite, c'est merveilleux. La sève monte. Ah, attention à la gelée tardive qui arrête tout. C'est un peu comme ça. Je crois que nos intelligences se développent avec le travail. Il faut beaucoup travailler pour être intelligent. J'aime beaucoup mieux ce genre d'intelligence. Beaucoup travailler. De temps en temps, qu'il y a un peu un petit éclair, hein, qu'on ouvre un peu la lumière pour que ça fasse plus clair, ça c'est très bien. Mais au fond, normalement, il faut beaucoup travailler. Beaucoup travailler pour que ça puisse se réaliser. Donc, le péché originel ne touche pas notre capacité intellectuelle. Ça touche l'affectivité, les passions, le sensible. Dans quelle mesure qu'empêche l'intelligence de s'exercer parfaitement? Oui, à cause de la paresse. Parce qu'on est plus lourd, on a de la peine à s'y mettre. À cause du péché originel, on dort plus. On dormirait moins si ce n'est pas le péché originel. Ça, c'est sûr. Il y a un poids de fatigue qui s'accumule et puis qui donne d'excellentes excuses pour ne pas se lever trop tôt. Donc c'est tout ça, c'est la question de la paresse. La grâce présuppose la nature. Mais quelle lumière précisément apporte la foi? Est-ce une nouvelle sagesse? On l'a vu et on l'a dit oui. C'est-à-dire une nouvelle finalité? Oui, on l'a dit. Ou est-ce une nouvelle lumière analogiquement au sens fort? C'est-à-dire que l'on connaîtra, qu'on le connaîtrait plus profondément la réalité existante de ce fait. On le verra. Parce qu'on n'a pas encore entamé la foi, donc. Continuons rapidement ce petit excursus philosophique. Qui, je crois, est très important. Même c'est capital, autrement je ne le ferai pas. Mais c'est les souterrains, c'est les fondements. Et on doit revenir tout le temps là-dessus. Pour aiguiser notre intelligence. Il faut savoir jusqu'où notre intelligence peut aller. Dieu a voulu que nous soyons intelligents. Le vieux philosophe Aristote dit, en travaillant, en recherchant la vérité, en travaillant sa philosophie, on plaît au Dieu. Parce que on cultive la partie la plus noble qui est en nous, l'intelligence. L'intelligence est une noblesse unique. Cultiver ce que Dieu nous a donné de meilleur, ça plaît à Dieu. Cultiver son intelligence, chercher à faire un peu de philosophie, quoi. Parce que la philosophie, c'est fait pour ça. C'est fait pour cultiver un peu son intelligence. C'est fait pour atteindre une sagesse. Ça plaît à Dieu, ça j'en suis sûr. Autrement, on ne ferait pas ces sessions théologiques et philosophiques. C'est parce que on devient ami de la sagesse. On essaie d'avoir un regard qui est proche de Dieu. Et, on le verra ensuite, une intelligence bien aiguisée, et ça s'aiguise tout le temps. Toute notre vie. Je vous affirme, hein, pourtant il y a longtemps je fais de la philosophie, et bien il y a des choses que je ne découvre que maintenant. Qui ne sont pas dans les bouquins du reste. Qu'on découvre parce qu'on continue de travailler. On continue de réfléchir. Puis quand on est avec des jeunes, ils sont exigeants. Donc, ils vous empêchent de dormir. Et ils vous obligent d'aller toujours plus loin. Tant mieux, tu vois, j'aime beaucoup ça. Et on découvre que, progressivement, mais des problèmes comme la participation à la causalité, qui ont été des problèmes qui ont été très secoués dans le thomisme, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, ça ne m'a jamais satisfait. Mais j'ai mis du temps avant de découvrir. On met du temps. C'est l'être humain, ça. L'être humain, il est lent. Même des esprits très vifs savent qu'ils mettent du temps. Même ils sont très vifs parce qu'ils savent qu'il faut du travail. Donc c'est bon de faire de la philosophie. Valdez bonhomme, dirait le Seigneur. C'est très bon. Alors, je vous disais que, au plan philosophique, métaphysique, ayant découvert l'existence de l'être premier, je vois le lien qui existe entre l'être premier et moi-même. Je découvre cette dépendance radicale dans mon être. Je suis totalement dépendant de l'être premier de Dieu. Et cette dépendance à l'égard de Dieu n'est pas tyrannique, puisque Dieu m'a créé par pur amour. Elle est libératrice, puisque Dieu, en me créant, se donne à moi. Il serait très beau d'essayer d'étudier au plan purement philosophique que représente cette causalité première. Dieu artiste, la sagesse du Créateur, la paternité du Créateur. Alors si vous voulez, nous allons voir rapidement ces deux sortes d'analogies, de causalité, pour essayer de mieux comprendre ce que c'est que cette causalité première qu'on appelle création. Ce lien entre l'être premier, puis je suis, moi. Et je regarde d'abord par rapport à moi-même. C'est l'avantage de la métaphysique, c'est qu'on peut se regarder sans égocentrisme. Parce qu'on se regarde sous le point de vue de l'être. Et c'est très libérant du reste. Parce que quand on se regarde de façon trop affective, on trouve que notre nez n'est pas bien, que notre oreille ne va pas. Vous savez bien, ça ne va pas quoi. On se regarde de façon affective. Regarder de façon objective, c'est se regarder du point de vue métaphysique. Dans la lumière de la sagesse du Créateur, je me vois. C'est très beau, ça. Se regarder dans la lumière même de l'être premier. Je suis entre l'être premier et moi, il y a cette causalité première qu'on appelle la création. Alors, premier caractère de la création, que le philosophe peut tout de suite noter, puisqu'il s'agit d'une causalité première, il s'agit d'une causalité personnelle, qui ne présuppose rien. Donc, la causalité première créatrice est une causalité qui se fait à partir de rien. En latin, ex nihilo. Déjà ça, c'est extraordinaire à regarder. Vous, quand vous agissez, il y a toujours un bandeau sur lequel vous agissez. Vous agissez sur quelqu'un. Vous agissez sur une feuille de papier en écrivant. Et elle gémit. On n'a pas l'ouïe assez fin, on n'est pas assez attentif. Alors on n'entend pas les gémissements du papier. Vous agissez sur du bois. Vous agissez sur un être humain. Éducation. Vous agissez sur un animal. Dressage. Et ainsi de suite. Le médecin agit sur un malade. Le psychanalyste agit sur quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Nous agissons toujours en présupposant une cause matérielle. C'est à partir de là qu'on agit. Tandis que lorsqu'il s'agit de la causalité première, il n'y a rien. Il n'y a que Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on dira que cette causalité est comme une sorte d'émanation. Ça vient de Dieu. Tout vient de Dieu. quand Dieu crée la matière, quand Dieu crée un univers physique, ça vient de Dieu. C'est extraordinaire. Il crée à partir de rien. Ce qui fait que cette causalité première est un pur don. Dieu donne. Un don. Je suis un don de Dieu. Peut-être pas pour vous, mais je suis un don de Dieu en soi. Et vous êtes un don de chacun d'entre vous, puisque Dieu a créé votre âme à partir de rien. C'est beau de se considérer comme don de Dieu. On est tous, mais on ne le fait pas beaucoup. C'est triste, parce qu'on devrait quand même voir qu'on est, notre âme a été créée à partir de rien. La création, ce n'est pas ce qui a existé avant, elle est actuelle. Dieu crée actuellement. Et donc cette causalité première, elle est actuelle. Il n'y a rien de plus actuel que ça. Dieu donne, c'est un don. Émanation. Tout vient de Dieu. Et Dieu n'emprunte rien à l'extérieur. Et Dieu, en créant, réalise quelque chose, un don, une réalité existante, subsistante, ayant son autonomie. Cette causalité première. Cette causalité première qui se fait à partir de rien, qui implique un pur don. Cette causalité première se fait à partir de la bonté de Dieu. Puisque c'est un pur don, ça présuppose une bonté souveraine. On est l'effet, le résultat d'une bonté souveraine. Dieu, comme créateur, ne peut créer que des choses bonnes. Tout ce qui jaillit des mains de Dieu est bon. Dieu ne crée pas le mal. Ça n'aurait pas de sens au plan philosophique. Dieu crée des choses bonnes. Mais ces dons, ces réalités existantes, sont limitées, nécessairement. Elles sont distinctes de Dieu. Il y a un abîme entre le Créateur et la créature. La créature est finie et la bonté de Dieu est infinie. La sagesse de Dieu est infinie. La causalité première rend quelque chose d'infini. L'efficacité infinie. Cette causalité, parce qu'elle se fait à partir de rien, parce qu'elle est un pur don, est une causalité qui se fait sans lutte, sans travail. C'est une causalité contemplative, à l'intérieur de la sagesse. C'est en se contemplant que Dieu crée. Philosophiquement parlant, ça ne peut pas être autrement. Donc on doit le dire. Dieu crée en contemplatif. Cet artiste est un contemplatif. Et il se contemple, il communique quelque chose de lui. Et c'est vrai. Communique quelque chose de lui. L'être existant, une vérité existante. Donc, il faut bien comprendre le caractère tout à fait unique de cette causalité. Vous n'avez aucun exemple, mais vous êtes obligé, au plan de l'intelligence, de dire que cette causalité d'une bonté infinie. Et elle se fait selon un ordre. Puisque tout ce qui vient de la sagesse implique un ordre. Et donc cet univers qui dépend de Dieu, ce petit univers qui est moi-même qui dépend de Dieu, est très ordonné. Le reflet de la sagesse et le reflet de la bonté de Dieu. On peut peut-être aller un peu plus loin. Du fait même que tout provient de la bonté de Dieu et de la sagesse de Dieu, il n'y a pas de distance, bien qu'il y ait un abîme, entre Dieu et sa créature. Il faut affirmer les deux. Il n'y a pas de distance entre Dieu créateur et moi-même dans mon être. C'est ce qu'on appelle la présence d'immensité. Dieu est immédiatement présent à tout ce qu'il fait. Alors, réfléchissons un instant sur ce point de vue-là, parce que ça, c'est très beau. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que la présence ? Philosophiquement parlant, qu'est-ce que c'est que la présence ? Une relation de deux personnes. Prenez la présence de deux amis. Deux amis qui se rencontrent, sont présents. La présence, c'est une relation. J'ai conscience que quelqu'un est à côté de moi, en face de moi. Et la présence, puisque c'est une relation, va impliquer un fondement de cette relation. On est présent à quelqu'un dans la mesure où on agit sur lui. C'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'on aime quelqu'un et que quelqu'un nous aime. Il y a quelque chose qui reste. Une influence qui demeure. Donc, relation de présence qui implique une action. Dieu. Quand il crée, il se donne. Sans aucun intermédiaire. Donc il est entièrement présent. Parce que Dieu est indivisible, il est un. Il y a une unité en Dieu. Il est absolument simple. Et donc quand Dieu crée, est immédiatement présent à ce qu'il fait. Et tout est porté par sa causalité. Actuellement, mon âme, créée par Dieu, qui a été créée à tel moment, mon âme n'a pas d'âge. Mon corps, oui. Mais mon âme n'a pas d'âge. Pour vous non plus. Votre corps, oui. Tandis que l'âme, non. Elle a une durée, pas d'âge. Elle est faite pour durer indéfiniment. Elle est spirituelle. Donc mon âme est créée actuellement par Dieu. Et donc je suis porté par lui. Puisque j'existe. C'est assez étonnant, ça, quand on réfléchit là-dessus. Vous voyez la proximité de la présence d'immensité du Créateur. Parce que, comme Créateur, Dieu ne peut pas se servir d'instrument. Ça, c'est aussi très important à souligner. Dieu ne se sert pas d'instrument, il ne peut pas. Et on comprend très bien, c'est une causalité première. Comme créateur. Alors, s'il y avait un instrument, il y aurait donc quelque chose avant. il ne serait plus causalité première. Ce serait contradictoire. Donc il ne se sert pas d'instrument, il ne peut pas servir d'instrument. C'est un don pur, un don immédiat. Et donc, il y a une présence d'immensité qui fait que Dieu, en tant que créateur, touche mon exister, mon être. Il est présent au plus intime de moi-même, dans mon être. Il n'y a rien de plus intime que mon être. Les autres, en dehors de Dieu, agissent sur moi de l'extérieur. Le Créateur agit de l'intérieur. Une action invisible de l'intérieur. Il agit sur mon être, directement. Alors mon être, il est partout, hein, il est au bout de mon petit doigt. Il est dans ma tête, il est partout mon être. Tout existe en moi. Donc, il est présent en tout. C'est l'exemple qu'on a pris ordinairement. L'éponge entièrement portée dans la mer, portée par l'eau, et l'eau imbibe tout. C'est une comparaison, hein, c'est une comparaison. C'est beaucoup plus que ça. On ne fait pas nombre avec Dieu. Et on ne peut pas faire nombre avec Dieu, puisque tout vient de lui. Je n'ajoute rien à Dieu. Vous n'ajoutez rien à Dieu, parce que tout vient de lui. De façon plus ou moins directe, mais tout vient de lui. Vous ne pouvez rien ajouter. La créature n'ajoute rien à Dieu. Elle n'agrandit pas Dieu. Elle ne perfectionne pas Dieu. Elle est portée par Dieu. Transformée par Dieu. Mais elle est vraiment celle qui n'ajoute rien à Dieu. Je ne peux rien ajouter à Dieu. Parce que Dieu étant infini, je ne peux rien ajouter à Dieu. Donc, présence d'immensité de Dieu. Vous voyez donc que cette causalité est une causalité de sagesse et de surabondance d'amour. Et elle implique un ordre de sagesse. C'est une causalité artistique. Dieu fait quelque chose, une œuvre. Notre univers est une œuvre de Dieu. Et je suis une œuvre de Dieu. Une œuvre de Dieu. Donc, activité artistique. Mais Dieu est aussi celui qui communique à certaines réalités, il communique la vie. En tant qu'il communique la vie, il est Père. Dieu communique la vie. Vous voyez, je ne dis pas que Dieu crée la vie. Au plan philosophique, je crois qu'il est très important, surtout dans le monde d'aujourd'hui, de bien comprendre que la création porte sur l'exister, l'être, et non pas sur la vie. Dieu crée des êtres parfaits auxquels il communique la vie. Le passage de l'être non vivant à l'être vivant est un passage qui est toujours très difficile à bien préciser et qui, de fait, n'exigera pas un acte particulier du Créateur. Parce qu'il communique la vie. Alors évidemment, il la communique selon sa sagesse. Il communique la vie à des êtres qu'il crée. Il a créé notre âme qui est source de vie. Votre vie comme telle n'est pas immédiatement créée par Dieu. Autrement, vous n'auriez aucune autonomie de vivant. Vous avez une certaine autonomie comme vivant. Et la vie a une certaine autonomie. Ah, c'est très important de sauvegarder l'autonomie du vivant. Et pour ça, il faut comprendre que l'acte créateur de Dieu porte sur un être existant, limité, mais ne porte pas immédiatement sur la vie. Ce n'est que par l'intermédiaire d'un être parfait que Dieu communique la vie. Il faut que l'être soit suffisamment parfait pour qu'il soit capable de vivre. Alors là, il y a une petite remarque extrêmement intéressante, difficile à saisir. On est tellement habitué à dire Dieu est le créateur. On dit Dieu est le maître de la vie et de la mort. On ne dit pas Dieu est créateur. On dit Dieu est le maître de la vie et de la mort. Parce que la vie provient de lui. Mais il n'est pas au sens strict créateur. Pour créer, c'est à partir de rien. Or, jamais la vie n'apparaît à partir de rien. Elle présuppose toujours un support physique dans laquelle elle s'inscrit. Le vivant s'inscrit d'une manière invisible, immanente, à partir d'une réalité physique. Il crue les mœurs de la vie à la différence de l'être. Je dis que c'est très important pour nous de bien distinguer, parce que il y a une idéologie athée aujourd'hui qui se base sur ce fait. Je suis un vivant, donc j'ai l'autonomie, et par le fait même, je ne peux pas être créé. Qui dit créé dit dépendant. Qui dit autonome dit indépendant. Or, je suis vivant, donc j'ai l'autonomie. Donc je suis indépendant. Et donc je ne peux pas être créé. Donc Dieu crée, Dieu n'existe pas. Parce qu'il y a des vivants. Voyez la confusion. C'est que je dois distinguer en moi mon être et ma vie. Un jour, je mourrai. La mort, c'est l'arrêt de ma vie. C'est pas l'anéantissement de mon être. Les hommes essaient de l'anéantir, le réduire en poussière, on incinère. Ce serait tellement plus facile, si tu anéantissais, il n'y aurait plus rien du tout. Non, pas du tout. La mort est un arrêt de la vie. Et mon corps continue d'exister. Le cadavre continue d'exister. Il n'est pas anéanti. La mort n'est pas une néantisation. Dieu n'anéantit rien. Ce serait contraire à sa sagesse. Mais Dieu accepte la mort. Il est le maître de la vie et de la mort. C'est important, vous voyez, de bien comprendre que la relation de Dieu à l'égard de la créature se situe au niveau de l'être, et la relation de celui qui communique la vie, il est père. À l'égard de la mort, c'est pas la même. Dieu permet la mort. Est-ce que Dieu veut la mort? Poser un point d'interrogation au point de vue philosophique, c'est pas commode de répondre. Je constate que des êtres meurent. Est-ce qu'il meurt à cause d'une volonté de Dieu? Ou est-ce qu'il meurt à cause de certaines causes secondes qui engendrent la mort? C'est très délicat, ça, de savoir ça. Est-ce que je peux dire que Dieu, en tant que Père, est cause de la mort? Il est le maître de la vie et de la mort. Vous voyez, préciser ces choses-là, c'est très important, parce que dans le langage courant, on emploie aussi bien l'un que l'autre. Et au bout d'un certain temps, c'est plus très bien ce qu'on dit. L'âme spirituelle, elle est créée directement par Dieu. Il y a deux points de vue qui sont créés immédiatement par Dieu, l'être et l'esprit. L'âme, Dieu pourrait se servir d'instrument. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de problèmes, vous savez, au point de vue de l'évolution du physique au vivant. Le grand problème, c'est par rapport à l'esprit. Y a-t-il un passage entre le vivant biologique, animal, et l'être humain? C'est là la difficulté. Tandis qu'entre le point de vue physique et le point de vue vital, tout pourrait s'expliquer par des causes secondes. Parce qu'il s'agit là, non plus de la création, mais du gouvernement de Dieu. Dieu communique la vie. C'est très très important ça, de bien saisir ça. Parce qu'on doit être très précis au point de vue philosophique. Donc, je précise bien cela. Est-ce qu'on peut aller plus loin au plan philosophique? Au plan philosophique, pouvons-nous parler de faute? Pouvons-nous parler de liberté? L'homme, moi-même, dépendant de Dieu, j'ai une certaine indépendance. Je suis un vivant. Et un vivant parfait. C'est vrai. Je suis le vivant le plus parfait que je peux expérimenter. Vous n'avez jamais expérimenté un vivant plus parfait que l'homme. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est le roi des animaux. Il a quelque chose de royal. Parce qu'il est le plus parfait. Je constate que j'ai en moi une certaine liberté. Je constate, je ne vais pas aller plus loin. Je constate que je suis capable de refuser, de dire non. Et de dire oui. De dire non à l'égard de quelque chose que je devrais faire. Et je suis capable de dire oui à l'égard de quelque chose que je ne devrais pas faire. Autrement dit, je suis capable, étant donné ma liberté, de brouiller les cartes. Je dis non, je dis oui. Et il faut très peu de choses. Si vous m'aviez demandé ce matin telle chose, j'aurais dit non. Vous me le demandez ce soir, je dis oui. Quelquefois, c'est des simples circonstances comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire toujours grande attention quand on demande des permissions à des supérieurs, savoir si vous les demandez le matin ou le soir. Ça, c'est simplement intelligent. Dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est évident que normalement, le soir, l'affectivité augmente. Normalement, le matin, l'intelligence est plus aiguë. Donc, un supérieur refuse plus le matin que le soir. J'en suis sûr. J'en ai l'expérience. curieux, ça. Oui, ce jeu de la liberté, ces conditions de la liberté. Alors, un supérieur qui veut maintenir un ordre très rigoureux, quand quelqu'un vient lui demander la permission le soir, écoutez, ce soir, c'est trop complexe, revenez demain matin. Et là, on n'a rien compris. Ben, revenez demain matin. On discutera ça demain matin. Ce soir, on n'a plus le temps. C'est qu'un supérieur qui est bon, qui est très bon. Ouh, très bien, très bien. Très bien, c'est convenu. Dis ça le soir. Puis le lendemain matin, personne ne revient dire. Il a complètement oublié qu'il avait dit oui. Mais s'il n'a pas oublié, c'était un tout petit peu trop bon. Le soleil décline le soir. Je constate que je suis capable de faute, de ne pas faire ce que je devrais faire. Et que ma conscience condamne, je peux le faire. Puis-je préciser quelle est la faute majeure? Plan purement philosophique, la faute première dans l'ordre de dignité de faute, de grandeur de faute, oui. Je peux philosophiquement préciser que la faute première, c'est l'orgueil. Et que, au plan imperfection, les fautes sensibles, passionnelles, instinctives sont moins graves que les fautes de l'esprit, l'orgueil. Je peux. Ça, c'est une éthique, tout simplement. Il y a une éthique au plan philosophique. Je peux très bien parler de ça. Donc, voilà, au plan philosophique, hein, je crois, mais je ne peux pas dire plus, hein, je ne peux pas parler de péché originel au plan philosophique. Je constate qu'il y a du mal dans le monde et que le mal provient du péché, de la faute. Et donc de la faute d'orgueil. Ça, je pourrais le dire, au plan purement philosophique, que l'orgueil engendre l'anarchie, que l'orgueil détruit l'ordre, que l'orgueil s'oppose à la sagesse. Et l'orgueil, c'est exalter mon autonomie. Je veux que mon autonomie aille très loin. Voilà ce que je peux dire au plan philosophique. Je ne peux pas dire beaucoup plus. C'est déjà beaucoup. Déjà énorme. Maintenant, je passe à l'attitude du croyant. Toute pensée théologique présuppose la foi. Que me dit la foi sur le problème de la création? Je vais tout de suite me poser la question. Hein. Que me dit la foi sur le problème de la création? Dans le credo, je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ça fait partie de votre credo. Ce sont des affirmations très anciennes. Tous les credos le disent. Tous. Constantinople, Nicée, toujours. Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Créateur du ciel, des choses visibles et invisibles. Quand je dis je crois en un seul Dieu créateur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je reconnais que tout ce que je vois, moi-même, je dépends du Dieu créateur. Est-ce que, au point de vue de ma foi, quand je parle du Dieu créateur, est-ce que j'ajoute quelque chose à tout ce que j'ai dit au plan philosophique ? Le croyant n'est pas nécessairement un philosophe. le théologien est un philosophe. Mais le croyant n'est pas nécessairement un philosophe. Alors, pour le croyant, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis « je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre » ? Ce que nous disons en tant que croyants. Mais nous sommes souvent doublés d'un théologien. Et dès qu'on fait un peu de philosophie, qu'on est croyant, on fait de la théologie. Tout de suite. Le croyant simple, très simple, qui croit, pour lui, quand il dit « je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre », il veut dire « tout vient de Dieu, tout dépend de Dieu ». Comment ? Je n'en sais rien, mais ça dépend de Dieu. Et surtout l'homme, pas un cheveu ne tombe de la tête sans que le Père le permette, sans que Dieu le permette. Ah, oh, voyez bien. Donc Dieu s'occupe de tout. Création, gouvernement divin, providence. Le croyant de foi chrétienne, je crois que c'est la même chose, de foi chrétienne, protestante, réformée et catholique. Il croit dans la providence et dans le gouvernement divin. Dieu a tout créé. Je dois accepter que Dieu a créé mon âme de façon spéciale. Il a mis un poids d'amour unique pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous aimés de façon unique. Est-ce qu'il y en a qui sont plus aimés pour la création de l'âme ? Non. Tous aimés de façon unique. Vous ne pouvez pas faire de comparaison. Ça ne signifie rien dans l'ordre de l'amour. Mais quand vous demandez à une mère de nombreuses familles lequel de ses enfants elle aime plus, elle vous sourit, dit « je les aime tous ». Oui, mais quand même, il y a des petites préférences. Non. Je les aime tous. Chacun de façon unique. C'est bien ça. C'est très beau de la part d'une mère dire ça. Elle les aime tous. Ceux qui sont des cancres et ceux qui sont extraordinairement brillants. Le pauvre petit qui a beaucoup de peine de travailler, pas nécessairement cancre, mais beaucoup de peine, pas très doué. La mère l'aime encore plus parce que il faut le faire travailler. Celui qui est très doué, il se débrouille tout seul très vite. Parce que pauvre petit, infirme, il ne se débrouille pas tout seul. Il a besoin de sa mère. Très très longtemps. Et parce qu'il a besoin de sa mère très longtemps, qu'il est très proche d'elle, sa mère l'aime encore plus. Quand il s'agit de Dieu, c'est encore beaucoup plus vrai. Dieu aime chacun de façon unique. Et ça ne peut pas être autrement. Puisque chacune de nos âmes sont créées par Dieu. Et de façon unique, avec un poids d'amour unique. Et ceci existe actuellement pour chacun d'entre nous. C'est ça que dit le croyant. L'âme est invisible et il y a le monde visible. Et Dieu crée le monde visible et le monde invisible. Donc la foi me fait simplement adhérer à ça. Est-ce que je peux aller plus loin, point de vue de la foi ? Point de vue de la foi, je dois simplement affirmer qu'il y a un acte créateur de Dieu à partir de rien. Donc mon âme vient de rien, c'est-à-dire elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Et elle vient directement de Dieu. Mon âme spirituelle vient directement de Dieu, l'esprit. Mon âme a été créée par Dieu. Est-ce que la foi dit quelque chose sur l'origine du corps ? Non, rien du tout. La foi et le croyant lient ce que nous entendons au réfectoire, quand le Saint-Père commente les 11 premiers chapitres de la Genèse, et les commandes pour les croyants. Alors, la foi, le croyant, je suis un croyant, et j'ai le devoir de lire la Genèse. Premier récit de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était un chaos. Et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Voilà le comment. Vous imaginez, hein ? Pas commode à imaginer. Il y a un chaos. Puis, il réalise tout ça selon un certain ordre. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Je ne vais pas lire tout. Et troisième jour, quatrième jour. Et tout d'un coup, il y a quelque chose de très particulier. Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Jusque-là, ça allait de soi. On ne dit rien. Dieu dit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu crée par sa parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière vient de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Cinquième, sixième jour, Dieu crée l'homme et la femme. Alors là, vous connaissez suffisamment le texte, pas la peine que je le lise. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il les crée en même temps. Selon le premier récit de la Genèse, premier récit de la création. Il faut les lire souvent, ça. Et les 11 premiers chapitres de la Genèse sont des livres qu'on doit lire souvent, parce que ce sont des livres qui ont une valeur, j'allais presque dire métaphysique, d'un symbolisme métaphysique divin, étonnant. Et on aime beaucoup de visiter les grottes primitives, du moins. J'aime beaucoup visiter les grottes primitives. Maintenant, c'est plus difficile. À un certain moment, c'est très faisable. C'était merveilleux. Visiter ces grottes primitives, c'était saint premier. Ces fresques. Bien, je crois que les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est quelque chose de très archaïque. C'est l'Esprit Saint qui se sert des premières traditions religieuses pour nous donner une petite maquette du gouvernement de Dieu.